Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui aujourd'hui part à la découverte de certains Européens. Allez, soyez francs. Sauriez-vous situer du premier coup la Slovénie sur la carte de l'Europe? Allez, je vous aide. Ce tout petit pays de 20 000 km² et de 2 millions d'habitants est encastré entre l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Croatie, tout cela sur l'Adriatique. Un pays tout neuf, né de l'éclatement de la Yougoslavie au début des années 90. Et les Slovènes eux-mêmes disent souffrir de cette méconnaissance de leur pays à l'étranger. Reportage Laurent Berthaud.
Exposé comme une relique sous une bulle dans une salle du musée de Ljubljana, le premier passeport slovène délivré juste après l'indépendance du pays en 1991. Plus de 20 ans après, ce passeport continue de susciter la curiosité à l'étranger, surtout lorsqu'on part faire ses études aux États-Unis. Cette jeune Slovène a fini par en faire de petits sketchs très drôles diffusés sur les réseaux sociaux.
So, where are you from?
Slovenia.
Oh, that's part of Russia, right?
No.
You used to be part of Russia?
No.
But it's next to Russia.
No, no, no Russia. There's no Russia in there.
But you speak Russian.
Et non, les Slovènes ne parlent pas russe, ils ont une langue bien à eux, même s'ils maîtrisent parfaitement l'anglais par ailleurs. Mais rien à faire, ce petit pays, membre de l'Union européenne depuis 2004, reste méconnu, y compris des Européens eux-mêmes, comme en témoigne Eric, français, qui a ouvert une enseigne Oliver & Co. à Ljubljana il y a 5 ans.
À vrai dire, j'avais pratiquement aucune image, j'avais juste l'impression que c'était un pays qui était plus à l'est que ça, et donc, notamment en termes de temps, toujours ces images un peu négatives des pays de l'est, et effectivement, j'ai découvert un pays qui n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais en France, on connaissait plus la Yougoslavie, en fait, et on ne savait pas que la Slovénie était un des États yougoslaves.
Plus de 20 ans après avoir acquis son indépendance, la Slovénie fait surtout parler d'elle à l'étranger par ses résultats de handball, de football ou ses performances en ski alpin. On évoque rarement ses merveilleux paysages d'une grande diversité ou la richesse de sa cuisine. Tentative d'explication avec un ethnologue, également cuisinier et spécialiste de la cuisine slovène, Janez Bogataj.
La question c'est pourquoi on a ce problème? Pourquoi personne ne sait où se trouve la Slovénie? Eh bien, la réponse, c'est en Slovénie qu'il faut la chercher. Parmi les Slovènes, au sein du gouvernement, dans de nombreux secteurs qui ne font pas assez pour faire connaître notre pays à l'étranger. Par exemple, la Slovénie n'a jamais financé un seul bon livre de recettes de cuisine en français, en anglais ou dans n'importe quelle langue. Beaucoup de Slovènes pensent que le sport est la meilleure promotion qu'on puisse faire du pays. Alors, bien sûr, c'est important, mais ça n'a pas d'effet à long terme. C'est de la publicité temporaire.
This is a temporary promotion.
Les ambassadeurs de la culture slovène se trouvent parfois là où on ne les attend pas. Un soir de semaine, dans les faubourgs de Ljubljana, une quarantaine de jeunes gens, essoufflés et en sueur, répètent des danses folkloriques depuis 2 heures. Les cavaliers rivalisent de figures aussi étonnantes que physiques, les cavalières s'envolent, le groupe partira bientôt en tournée en Europe. Danser, c'est une façon pour eux de se faire des copains, de passer du bon temps et bien plus encore. Anya, dans le groupe depuis 8 ans.
The inspiration for me is my grandmother.
C'est ma grand-mère de 89 ans qui m'a donné envie de danser. Et j'adore quand elle me raconte ses souvenirs d'enfance, tellement différentes de la nôtre. Pas de télé, pas de radio, ils devaient s'amuser autrement. Et c'était très important pour eux d'aller danser dans d'autres villages ou villes, l'occasion de faire des rencontres. Danser, c'était un peu leur Facebook à eux. Ma grand-mère me raconte plein de choses sur cette époque et j'ai réalisé que dans notre groupe de danseurs, c'était pareil pour beaucoup de gens. Et nous voulons préserver cette tradition qui remonte au 18-19e siècle.
Pour vous, conserver ce lien avec le passé, est-ce que c'est un moyen de ressentir que vous appartenez à un pays ?
Yes, of course, because...
Bien sûr, et lorsqu'on se produit en costume à l'étranger, on se sent vraiment ambassadeur de la Slovénie. Et je peux vous assurer qu'à la fin de ces rencontres, tout le monde sait où se trouve la Slovénie.
Everybody knows where Slovenia is.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être slovène?
Eh bien, moi, je suis fière d'être slovène, mais je ne dirais pas que nous vivons dans un petit pays. La définition de petit, c'est comment on le ressent et comment on le voit. Il y a plein de petits pays dans le monde et les gens les connaissent. Il n'y a aucune raison que les autres n'apprennent pas à nous connaître.
No, reason why they shouldn't know us.
Faire connaître la danse slovène, c'est une chose, mais quels autres atouts mettre en avant ? Réponse inattendue de l'ethnologue Yannès Bogataï.
De nombreux journalistes étrangers ou de visiteurs me demandent souvent qu'est-ce qui est typique en Slovénie. Et ils s'attendent à ce que je parle des chevaux lipizzans ou je ne sais quoi. Tout ça, ce sont des stéréotypes. Ce qui définit notre héritage culturel, notre façon de vivre, c'est notre diversité. Sur un territoire aussi petit, on a 24 régions culinaires différentes et on parle plus d'une vingtaine de dialectes. C'est une richesse incroyable. Et cet héritage est dû au fait que nous sommes au point de rencontre des Alpes, de la Méditerranée et de la Pannonie, cette région au nord de l'Europe centrale.
Un avis dissonant pour terminer, celui de Grégar Epovch, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Mladina, qui s'amuse de cette volonté des Slovènes d'exister à tout prix.
C'est pas grave que personne ne nous connaisse. Les gens n'ont pas le temps de savoir les noms de tous les pays. Moi, par exemple, je ne sais pas qui est l'actuel président d'Albanie. Et je mélange souvent les capitales des États baltes. Si vous demandez à n'importe quel Slovène de citer le nom de la capitale de Souabe, en Allemagne, il va se demander si je n'utilise pas un vieux mot pour désigner l'Allemagne. Nous sommes tout petits, donc c'est normal que les gens ne nous connaissent pas. Ce qui compte, c'est de vivre bien dans un petit pays, pas trop compliqué.
Reportage Laurent Berthoud. C'est encore interdit dans la plupart des pays européens et dans le monde, mis à part en Suède et en Espagne. Désormais, un troisième État s'ajoute à la liste. Depuis quelques jours, le don du sang en Finlande s'est élargi à un nouveau groupe, les homosexuels. Jusqu'alors, le pays nordique interdisait aux gays de donner leur sang, arguant d'un risque de transmission de maladies plus important. C'est maintenant terminé, ou presque, Pauline Curtet.
Oui, depuis le 12 mai, les hommes homosexuels finlandais peuvent donner leur sang. Mais attention, ils doivent le faire en respectant cette règle, celle de promettre que leur dernier rapport sexuel avec un autre homme a eu lieu il y a plus d'un an. Pour la Croix-Rouge finlandaise, qui s'occupe de recueillir les dons, c'est indispensable. L'association rappelle que le risque de transmission d'une maladie sexuelle lors d'un rapport entre deux hommes est 20 fois plus élevé que lors d'un rapport hétérosexuel. Ces médecins ajoutent par ailleurs que si la transmission d'une maladie s'est faite récemment, elle ne sera pas détectée lors des tests sanguins, d'où la nécessité d'un délai entre le dernier rapport sexuel et le don de sang. Malgré cette restriction, ce changement de loi constitue bien une victoire pour les activistes pro-gays finlandais. Ces derniers voyaient en l'interdiction pure et simple un acte homophobe, rappelant qu'elle était hypocrite, puisqu'ils pouvaient tout aussi bien mentir sur leur vie sexuelle pour accéder à ce droit. Dans le pays nordique, la nouvelle est passée relativement inaperçue. Quelques lignes dans les médias, c'est tout. Pourtant, avec cette loi, la Finlande se démarque, accédant à un groupe très fermé de pays donnant ce droit aux homosexuels, avec plus ou moins de restrictions, parmi lesquelles l'Italie, l'Espagne ou la Suède. C'est là un vrai progrès pour les homosexuels finlandais. Ils pourront se rendre dans un centre de donation sans avoir à cacher leur sexualité.
Les jeunes Suisses l'ont échappé de justesse. Le petit État confédéral ne sera finalement pas exclu d'Erasmus+, le fameux programme de mobilité d'étudiants en Europe, l'un des seuls qui fonctionne très bien d'ailleurs. Un accord a été trouvé le mois dernier entre le gouvernement helvète et l'Union européenne. À l'origine de cette renégociation quand même, le vote des Suisses en février dernier contre l'immigration de masse. Un résultat jugé incompatible avec le principe de libre circulation entre l'Union européenne et la Suisse. Berne qui devra désormais payer les bourses des étudiants, Cyril Péter.
Ne lâchez pas les universités suisses, fer de lance d'une économie prospère. Tel était le message adressé par les étudiants suisses au gouvernement. Des étudiants inquiets et qui, une fois n'est pas coutume, étaient descendus dans la rue Pour Fabien Degoumois, président de l'Association des étudiants en Suisse francophone, cette pression a fonctionné. Le vote des Suisses pour limiter la libre circulation n'a pas eu raison du programme d'échange.
Après la votation, il y a eu quelques manifestations dans la plupart des grandes villes suisses. Donc ça a fait couler beaucoup d'encre et je pense que les politiques ont vu que c'était un sujet très sensible. Et les négociations ont repris directement après. Et je pense qu'on est très heureux de voir que ça commence à se débloquer.
Le gouvernement suisse a donc débloqué 19 millions d'euros pour l'année prochaine, une somme qui devait être versée à l'Union européenne, comme le fait chaque année la Suisse depuis son entrée en 2001 dans ce programme de mobilité. Mais cette année, cet argent ne passera pas par Bruxelles. Il sera versé directement par Berne aux étudiants, aussi bien suisses qu'étrangers. Cela fera un peu plus de travail administratif pour les autorités, mais le bénéfice sera indéniable pour les universités suisses. Yves Rey, vice-recteur de la haute école spécialisée en Suisse occidentale.
Si nous n'allons pas cofinancer aussi la mobilité studentine des étudiants étrangers vers la Suisse, on aurait été perdant sur toute la ligne parce qu'on aurait perdu notre attrait à la mobilité. Et je pense qu'on aurait aussi perdu pas uniquement des étudiants étrangers qui viennent chez nous et qui enrichissent nos écoles de par cette système interculturel, mais on aurait également perdu tout à fait des échanges avec les universités partenaires parce que qui dit échange, qui dit Erasmus, dit égalité. Et si nos étudiants suisses n'avaient pas pu aller également étudier à l'étranger, ça n'aurait pas été intéressant pour nous.
90% du budget débloqué sera donc dédié aux bourses. D'abord pour ceux qui étudient à l'origine en Suisse et qui partiront l'année prochaine dans une université ailleurs en Europe, mais aussi pour les 3000 étudiants étrangers dont un tiers vient d'Allemagne et qui choisissent la Suisse pour y passer un ou deux semestres. Et heureusement que ces bourses sont maintenues car le coût de la vie en Suisse peut faire reculer certains candidats européens. À l'université de Lausanne, où les étudiants profitent du soleil pour boire un verre avec vue sur le lac Léman, Mathieu, étudiant en biologie, se félicite de la décision du gouvernement suisse. Il va partir en Irlande.
J'ai déposé mon dossier malgré l'annonce de la votation et toutes ses conséquences, sans savoir vraiment si on allait partir, mais on n'avait rien de mieux à faire que quand même poser nos dossiers, quoi. On a été longtemps dans le flou et puis au final, j'ai reçu ma réponse comme quoi j'étais accepté à Dublin. Donc je suis très content. Maintenant, j'attends des nouvelles de Dublin pour en savoir un peu plus, quoi.
Au final, aucun candidat des universités suisses a été refoulé. Mais dans le doute, Fiona a préféré organiser elle-même son séjour en Espagne et en Angleterre.
Avec toutes les histoires qu'il y a eu en Europe, tous ces faux départs, etc., j'ai choisi de ne pas partir et de faire une année sabbatique entre mon bachelor et mon master à la place. Et ainsi pouvoir partir aussi dans deux pays différents, ce qui n'était pas possible avec l'Erasmus. Donc c'est à mes frais et je compte bien travailler pour rembourser tout ça.
Au nom de la volonté populaire d'instaurer des quotas à l'immigration, la constitution suisse a été modifiée, une mesure incompatible avec le principe de libre circulation en vigueur en Europe, d'où la rétrogradation de la Suisse qui s'est fait taper sur les doigts par Bruxelles. Le pays est passé du statut d'État membre à celui d'État tiers pour Erasmus+. Rudolf Christen du département de la recherche au Conseil fédéral.
À la langue, c'est bien sûr un statut défavorable parce que d'un côté, on ne peut pas participer à 100% aux programmes européens qui sont quand même assez importants et assez nécessaires et assez utiles. Et d'autre côté, les Européens n'ont pas aussi toutes les possibilités qui seront offertes par Erasmus+.
En clair, un étudiant espagnol qui voudra intégrer l'équipe de foot de l'université de Zurich devra payer lui-même les frais d'inscription. Car Erasmus+, ce ne sont pas que les bourses d'études, ce sont aussi les projets entre universités ou encore les activités sportives et culturelles. 10% du budget débloqué par Berne servira à ces programmes additionnels, une somme toutefois insuffisante pour couvrir toutes les demandes jusqu'à l'été 2015. L'incertitude plane donc encore sur l'avenir. Rudolf Christen se veut pourtant rassurant.
L'étudiant ou l'étudiante ne devrait pas être vraiment touché par ces changements pour cette année. Quelle est la future? On ne sait pas parce que c'est encore à négocier avec l'Union européenne et c'est des conditions qui sont assez difficiles, je pense. Mais quand même, pour le moment, c'est garanti que les Suisses pourraient aller à l'étranger comme prévu.
Enfin, si le sauvetage d'Erasmus+ est en bonne voie, d'autres programmes européens, notamment celui pour la recherche et l'innovation, sont dans une très mauvaise passe. Les chercheurs, dont certains se trouvent déjà exclus, suivent de près les négociations avec Bruxelles qui doivent se terminer avant l'été.
Welcome to London.
Et c'est Marie Billon qui nous invite à suivre les Britanniques dans la fête. Outre-Manche, les jeunes parents ne veulent pas abandonner leurs habitudes du samedi soir. Alors une maman, Anna Saunders, a décidé de créer les Brixton Jam Parties qui accueillent petits et grands sur la piste de danse d'une véritable boîte de nuit.
Les néons colorés s'affolent dans une salle quasiment plongée dans l'obscurité. Les amplis passent du funk à la house, mais on est loin des basses assourdissantes des boîtes de nuit normales. Ici, les niveaux sonores sont adaptés aux oreilles délicates des enfants. La Brixton Jam Party est dédiée aux familles, pas besoin de babysitter pour un moment de folie. Les enfants sont les bienvenus. Sur la piste de danse, petits et grands se déhanchent. Vers le fond, les enfants qui n'ont pas envie de danser jouent tranquillement. On voit même des mamans allaiter leur petit dernier. Nous n'avons pas renoncé à ce qui nous plaît, explique Anna Saunders, l'organisatrice. Certains parents avaient même l'habitude de sortir dans cet établissement avant d'avoir des enfants. Sauf qu'ils n'étaient jamais là aussitôt. La discothèque n'ouvre qu'entre 14h et 16h30 et encore pas tous les week-ends. Car après 16h30, transformation, l'établissement redevient une boîte normale. C'est d'ailleurs un problème pour certains parents. Le sol reste un peu poisseux, reste d'alcool renversé par terre à maintes reprises. Pas l'idéal pour des petits qui se trémoussent à quatre pattes avant de mettre les doigts dans la bouche. Heureusement, les parents veillent au grain, les choses s'organisent assez naturellement avec des tours de garde auprès des enfants, dans la sobriété car il n'y a pas d'abus d'alcool à la Brixton Jam Party. La bière est disponible mais tout le monde reste raisonnable. Finalement, l'expérience est loin donc d'être celle d'une vraie boîte de nuit, mais la rave party familiale reste un compromis original.
I love this song, man, I love it.
On the top, you never said it. All right.
Le choix musical de Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui, vous avez sélectionné un duo allemand qui a fait fureur sur les blogs.
Oui, Milky Chance, c'est un nom qui s'est échangé l'an dernier en Allemagne comme un secret. Un secret plus très bien gardé puisque ce duo, originaire de Kassel, a rencontré un succès très important avec son premier album, Sad Necessary, avant de s'attaquer aujourd'hui au reste du territoire européen. C'est une histoire à la fois banale et toujours un peu singulière. Elle démarre avec un garçon, Clemens, qui enregistre dans sa chambre quelques ébauches de titres instrumentaux à la guitare. Il joue aussi dans un quartet de jazz avant de se consacrer entièrement à l'écriture de ses chansons avec un ami, Philippe. Leur premier titre se propage comme une traînée de poudre sur quantité de blogs. Les Milky Chance ont alors l'intelligence de ne pas céder aux sirènes de l'industrie du disque et créent leur propre label pour publier cet album qui mélange très habilement folk, reggae et rock.
She was a stunner, riding high and I got low. Ranking others, couldn't see what she was worth. On the party, behind the sunrise in the night, a month of July. I was a runner, riding high without a stop. Sticking to the imaginative spot.
Album de Milky Chance. À la semaine prochaine, Vincent Théval. Merci de nous avoir suivis sur Accent d'Europe à la réalisation Jonathan Brédy et Françoise Grelot. Restez à l'écoute dans quelques instants. Un peu de patience, le journal.